LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 3, l'artiste engagé.
Someday when they're grown up and playing jazz music, my wife and I said, people, reporters will say, where did you first appear in public? And they'll have to say Poland. Satine Poland.
C'est l'histoire d'un pianiste qui aime son métier et sa patrie. En 1958, Dave Brubeck et son quartet entament une tournée en Europe de l'Est et au Moyen-Orient au profit de la politique étrangère américaine. Si Sputnik, le premier satellite à voler dans l'espace extraterrestre, permet à l'Union soviétique de gagner une première manche du concours de popularité des prouesses de la guerre froide, les États-Unis déploient des efforts considérables pour faire la promotion de l'American Way of Life dans l'art et la culture. Des livres pour enfants à la réinvention d'un art abstrait plus efficace qu'un lance-missile implanté sur les côtes cubaines. Mais c'est le jazz qui incarne une des armes les plus redoutables au cours de la guerre froide. Dave Brubeck, dans le New York Times, 15 juin 1958.
Le jazz, qui est la seule forme artistique véritablement américaine, est accueilli, et non simplement accepté sans réserve, partout à travers le monde. Il est compris comme l'incarnation la plus authentique de la culture américaine. On attend aujourd'hui le jazz à l'étranger plus que jamais auparavant. Je suis encore plus touché par le fait que, de temps en temps, le jazz voyage à l'étranger sous des auspices officiels, comme cela a été le cas d'une très grande partie de notre tournée. Je n'aime pas utiliser le terme propagande pour parler du jazz, bien que ce soit le plus efficace pour expliquer sa valeur. Mais n'oublions pas, et cela ne peut pas être une simple coïncidence, le jazz a toujours accompagné la liberté.
Alors on est en 1958.
Pauline Perretz est historienne, spécialiste des représentations états-uniennes et soviétiques au cours de la guerre froide.
C'est un moment très chargé pour l'histoire raciale des États-Unis. Hein. 1954, c'est l'arrêté de la Cour suprême qui oblige à la déségrégation des écoles. 1957, c'est le fameux épisode de Little Rock, pendant lequel les suprématistes blancs empêchent des jeunes noirs d'entrer au lycée de Little Rock. Et cet épisode fait la une des journaux communistes dans le monde pour la propagande soviétique. C'est la preuve du racisme de l'Amérique, c'est la preuve que l'Amérique tient un langage de double standard, qu'elle prône l'égalité des peuples, l'égalité des hommes, mais que chez elle, elle sait pas faire et qu'il y a deux types d'hommes, les blancs et les noirs, minorités opprimées.
Cold empty bed, springs on his leg, feel like old Ned, wished I was dead. What did I do to be so black and blue?
Et donc, l'idée du département d'État...
Ludovic Tournès est historien, spécialiste de l'histoire du jazz et des relations culturelles internationales.
C'est d'utiliser le jazz, qui est une musique largement afro-américaine, pour dire, bah voilà, alors oui, il y a de la discrimination et la ségrégation, mais on fait des efforts, et le gouvernement américain peut valoriser une forme culturelle qui est largement représentée par les afro-américains, et donc l'utiliser comme porte-étendard de l'ensemble de la culture américaine. D'autant plus que le jazz est assez idéal pour ça, si je puis dire, parce que...
Jazz guarantees each musician absolute freedom. Within a framework of cooperation.
Il y a tout un discours qui se développe à ce moment-là, selon lequel le jazz serait une musique typiquement démocratique, puisque les petits ensembles de jazz de 5 ou 6 musiciens jouent des thèmes dans lesquels chacun des instrumentistes improvise l'un après l'autre. Et donc, le petit ensemble de jazz est une espèce de condensé de la démocratie où chacun prend la parole. Voilà. Alors, on peut penser de ce qu'on veut de ce discours, mais en tout cas, il est manié comme symbolique et pour montrer que le jazz est non seulement une musique originale, mais que quelque part, elle symbolise aussi ce qui est un des éléments du modèle américain, qui est la démocratie versus le communisme.
Who's the real ambassador? It is evident we represent American society, noted for its etiquette, its manners and sobriety. We have followed protocol with absolute propriety. We're Yankees to the core. We're the real ambassadors, though we may appear as
force. We are diplomats in a proper hast. Our dirty guns habitual, along with all the ritual, the diplomatico.
Et puis, c'est un type de musique qui tient beaucoup à l'improvisation.
Pauline Peretz.
Improvisation, mais également règles standards. Donc on se met d'accord, et c'est ce qu'explique très bien Brubeck, et pour lui c'est le signe de l'incarnation démocratique de cette musique, qu'on se met d'accord sur les règles, et ensuite on joue avec les règles, et en même temps il y a la part pour chacun. Alors Brubeck, il est le troisième jazzman à répondre positivement à cette demande du State Department. Les deux premiers à partir, c'est Dizzy Gillespie, qui fait une tournée en Europe et en Asie, si je me souviens bien. Et puis après, Armstrong, qu'on envoie en Afrique. Mais les choses se compliquent parce que au moment où le séjour s'organise, les événements de Little Rock ont lieu. Et Armstrong dit, moi, il est hors de question que je me fasse l'ambassadeur, parce que c'est vraiment le rôle qu'on attend d'eux, l'ambassadeur de cette Amérique raciste. Et donc, l'épisode se termine mal. Et troisième jazzman, c'est donc un blanc qu'on va chercher, un blanc qui joue une musique qui est relativement calme, harmonieuse, et qui peut parler à beaucoup de monde.
Derrière l'organisation de ces tournées musicales de guerre froide, le département d'État du gouvernement des États-Unis.
Alors, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères américain.
Ludovic Tournès.
Voilà. Donc, il est en compétition avec le département de la Défense, qui, pendant la guerre froide, prend de plus en plus de place, mais, disons, basiquement, c'est celui qui s'occupe de la diplomatie. Aussi, donc, de la diplomatie culturelle, qui explose, en fait, pendant la guerre froide, dans la mesure où, comme on est dans une guerre de type idéologique et culturel, finalement, les États-Unis mobilisent toute une série d'instruments pour faire la promotion du modèle américain, et en particulier la culture. Alors, il y a les tournées organisées par le département d'État pour des musiciens de jazz, mais il y a aussi tout le financement des centres culturels américains un petit peu partout dans le monde. Il y en a plus d'une centaine à la fin des années 50, début des années 60. Le département d'État finance aussi des traductions d'ouvrages. Donc voilà, la diplomatie culturelle américaine, elle est extrêmement vaste. J'ajoute que, de son côté, l'URSS fait exactement la même chose. Hein. Si vous considérez les chœurs de l'armée rouge, par exemple, ce sont un élément absolument important de la diplomatie culturelle soviétique. Donc chacune des superpuissances a dans sa besace toute une série d'initiatives en matière de diplomatie culturelle pour faire la promotion de son modèle au-delà de l'aspect purement diplomatique et purement militaire.
Le département d'État établit les itinéraires des tournées de ces stars du jazz avec minutie, aux endroits de la planète où les relations diplomatiques se compliquent, ou encore là où ces négociations stratégiques et commerciales s'avèrent délicates. Alors que Brubeck joue en Irak, l'administration américaine défend en coulisses ses intérêts sur le marché du pétrole. Quelques années plus tard, en 1960, Louis Armstrong donne une série de concerts au Ghana et au Nigeria. C'est Pepsi-Cola qui finance les deux premières semaines de la tournée, tandis que le département d'État prend en charge les 9 semaines suivantes. Un billet pour voir Armstrong sur scène à Lagos coûte alors 2 shillings et 5 capsules de bouteilles de cette boisson typiquement américaine. Des affiches clament fièrement « You like Satchmo ? Pepsi brings you Satchmo. Therefore, you like Pepsi. » Et Satchmo, bien sûr, c'est Louis Armstrong.
Le département d'État s'intéresse à ce qu'on a appelé donc les fronts de la guerre froide, c'est-à-dire que
Ludovic Tournès.
Il n'organise pas de tournées dans les pays où le jazz est déjà commercialement viable et où il y a tout un circuit qui existe, en particulier en Europe de l'Ouest, ou que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, il y a déjà des milieux jazzistiques, il y a une scène et donc organiser une tournée dans ces pays-là, c'est rentable commercialement, donc je dirais les impresarios privés s'en occupent. Dans des pays comme le Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, tous ces pays-là où d'abord la scène jazz n'est pas constituée, donc ça coûte cher d'organiser des tournées et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est la puissance publique qui intervient parce que son souci n'est pas le souci de rentabilité, en tout cas c'est pas le souci premier. Ça c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que ce sont donc des fronts de la guerre froide où finalement l'image des États-Unis est beaucoup moins bonne que dans les pays d'Europe occidentale qui sont alliés naturels entre guillemets des États-Unis dans la guerre froide. Et donc ce sont ces zones-là que le département d'État vise.
Pour le State Department, Brubeck, il avait un autre avantage, c'est qu'en quelque sorte c'était quelqu'un qui pouvait intellectualiser le jazz.
Pauline Peretz.
parce que il a su ramener à la fois de la musique, mais aussi un article, et qui peut faire office de propagande. Un article qu'il a écrit avec un journaliste, mais il a su monter en généralité pour montrer que ce jazz, c'était l'incarnation de la promesse démocratique américaine.
Dave Brubeck est un des musiciens blancs qui engage des musiciens noirs.
Ludovic Tournès.
Ça commence à être plus développé dans les années 50, mais c'est pas encore non plus complètement courant, surtout à l'international. Et notamment, à un moment donné, Brubeck fait une tournée en Afrique du Sud, où en raison de l'apartheid, le gouvernement ne veut pas qu'il joue avec des musiciens noirs. Il refuse. Donc il y a un côté, entre guillemets, militant de ce point de vue-là. Voilà, il y a le fait de faire voisiner ensemble des musiciens blancs et des musiciens noirs, qui n'est pas encore acquis à l'époque. Et c'est pas encore acquis à l'intérieur même du département d'État. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires du département d'État dans les différents centres culturels américains qui accueillent les musiciens en tournée, qui ne sont pas du tout contents de voir débarquer des musiciens noirs.
À l'Est, si l'antiracisme occupe une place de choix dans les discours, dans la vie quotidienne, c'est plus compliqué.
Il y avait un fossé, en fait, entre le discours et la pratique.
Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de la RDA, l'Allemagne de l'Est.
Alors, le discours, c'était celui de l'internationalisme prolétarien. De ce discours découlait une politique d'accueil à la fois de réfugiés, d'exilés politiques, une politique de valorisation de figures de la résistance ou de figures d'opposition à ces formes de racisme ou de ségrégation. Que, pour avoir travaillé dans les archives des écoles, on voit très bien comment la figure d'Angela Davis est mobilisée dans les années 70. Les petits écoliers est-allemands lui écrivent des lettres, lui envoient des cartes de soutien pour qu'elle continue à résister.
Sie halten dich gefangen. Wir werden nicht zulassen, dass die mörderische Klassen- und Rassenjustiz des US-Imperialismus unsere Angela uns entreißt und lebenslänglich in der Kerkermauern bringt.
Donc ça, c'est le discours. Et puis, il y a la réalité des relations quotidiennes avec une population qui, finalement, se méfie beaucoup des étrangers, qui ne voit pas beaucoup les étrangers. C'est aussi un des paradoxes, c'est que ces étrangers qui sont valorisés dans la communication et dans le discours sont en fait parqués dans des immeubles à l'extrémité ou à la périphérie de la ville. Ils sont regroupés dans des logements et ils sont surveillés par un concierge qui, voilà, sans être membre de la Stasi, fait régulièrement des rapports au moins à minima au commissaire de police du quartier pour signaler d'éventuels mouvements, non-respect de la discipline, sorties nocturnes, relations, enfin, faire entrer des femmes, par exemple, dans les foyers des travailleurs étrangers, et faire entrer des femmes allemandes, c'était évidemment interdit. Il y a donc ce rapport à l'étranger à la fois ultra positif sur le plan du discours et de méfiance, voire de racisme, avec des actes racistes perpétrés contre des travailleurs algériens. On a des exemples de ratonnades dans les années 70 dans une ville comme Erfurt, en Thuringe. Donc ce rapport à l'étranger, il est extrêmement compliqué parce que dans les relations quotidiennes, il est teinté de méfiance, il est teinté parfois de haine, de jalousie, quand certains Cubains ont un certain succès avec des femmes allemandes. On les considère vraiment comme des gens à la marge. Et ça vaut pour les autres démocraties du bloc, et y compris pour l'Union soviétique, où le racisme anti-noir était très fort, hein, notamment au niveau de l'accueil des étudiants noirs dans les universités moscovites. Le fait qu'ils soient, par exemple, privilégiés pour l'accès à certains logements étudiants plus confortables que d'autres, bah, créait des jalousies et pouvait dégénérer parfois en bagarre.
Вот спутник появляется в южном полушарии. Проследим за его движением по географической карте.
Alors oui, il y a un contexte particulier, parce que la fin des années 50...
Ludovic Tournès.
C'est aussi un moment où, dans la compétition entre l'URSS et les États-Unis, l'URSS marque des points décisifs. Et en particulier, il y a un événement symboliquement extrêmement important, qui est le lancement du Sputnik en 1957, qui donne une avance décisive dans la conquête spatiale à l'URSS, alors que les États-Unis étaient censés être en avance sur ce point. Et donc c'est une humiliation pour les États-Unis. Et donc les États-Unis vont lancer toute une série d'initiatives pour reprendre l'avantage dans la guerre froide. Alors d'abord ils vont lancer le programme Apollo, très directement du point de vue de la conquête spatiale, mais ils vont lancer aussi toute une série d'autres initiatives pour montrer qu'ils sont toujours là et que la compétition demeure. Et donc dans le domaine culturel, ça se manifeste par d'autres tournées de musiciens de jazz qui sont organisées. Alors en fait, les premières tournées de musiciens de jazz ont commencé en 1955-56, mais à partir de la fin des années 50, ça se multiplie, en particulier au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Donc la tournée de Dave Brubeck, elle se déroule dans ce cadre-là.
Ce qui est important aussi, c'est de ne pas perdre l'intérêt de Brubeck dans cette affaire.
Pauline Peretz.
Alors, il est patriote, ça c'est indéniable, qui a fait la guerre. C'est quelqu'un qui croit en la mission démocratique des États-Unis. Mais c'est quelqu'un aussi qui, comme tous les jazzmen, a besoin de tourner dans un contexte économique qui est pas bon pour les jazzmen aux États-Unis. Il y a beaucoup de clubs qui ont fermé. Et donc, c'est une aubaine, quoi. Et il va de capitale en capitale, hein. C'est aussi bien l'Europe, la Pologne, la Turquie. Il va à Bagdad, il va à Ankara, enfin...
Dave Brubeck se produit aussi en Iran, en Inde et en Turquie. D'après l'historienne Penny von Eschen, le secrétaire d'État Alain Delos décide de prolonger la tournée du quartet et annule ses prochaines dates de concert aux États-Unis sans prendre la peine de consulter les musiciens. En Iran, leur concert est sponsorisé par la compagnie iranienne de raffinerie pétrolière et l'USIS, l'agence d'information des États-Unis, autrement dit l'agence de propagande américaine à l'étranger. En Irak, Brubeck est victime d'une sérieuse crise de dysenterie alors qu'une guerre civile se prépare sans que les officiels ne l'en aient tenu informé. Pendant ce temps-là, son saxophoniste, Paul Desmond, épuisé lui aussi par cette tournée sans fin, a décidé de prendre quelques vacances sur les plages libanaises. Un matin, il découvre, pataugeant au milieu des baigneurs, 14 000 marines américains envoyés pour réprimer une menace de guerre civile au Liban et lancer un avertissement au nouveau régime irakien qui menace l'accès aux ressources pétrolières de la région.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces tournées, elles ont un effet non négligeable sur la production musicale de certains des artistes qui les font, et c'est le cas de Dave Brubeck, puisque pendant cette tournée, en Turquie en particulier, il en rapporte Blue Rondo à la Turque.
Ludovic Tournès.
Hein, donc c'est un moyen pour lui de prendre contact avec des musiques non occidentales, non européennes, non américaines, et d'enrichir finalement son répertoire musical. Disons, c'est une façon pour Brubeck de combiner deux univers musicaux extrêmement différents. Et c'est pas uniquement quelque chose de cosmétique, parce que par la suite, Brubeck va continuer un petit peu à travailler ses métriques irrégulières dans son travail jazzistique.
Alors, il a pris part à la guerre froide en mars 1958 en faisant une tournée à travers la Pologne.
Didier Francfort est historien. Il a écrit sur les tournées musicales et la diplomatie pendant la guerre froide.
À travers des grandes villes polonaises, hein, à Varsovie, mais aussi Gdansk, mais aussi Wrocław, mais aussi toutes les grandes villes polonaises, suivi par un groupe de jeunes Polonais qui adorent le jazz, suivi peut-être aussi par quelques policiers, hein, sans doute, mais bon, ça, l'histoire ne précise pas leur nom, mais alors qu'on a de noms de jeunes Polonais qui sont élèves de l'école des Beaux-Arts ou qui font du jazz eux-mêmes, qui ont suivi un ou plusieurs concerts de Brubeck en Pologne dans ce mois de mars 1958. Et ça a été pour les autorités polonaises à la fois une inquiétude de voir ce que ça pouvait être et un certain contentement de montrer aux Soviétiques qui parvenaient à établir ce lien privilégié avec les États-Unis. Parce qu'on a du mal à penser en France que, même à l'époque de la guerre froide, la Pologne a, avec les États-Unis, une relation privilégiée qui tient peut-être simplement au fait que la Polonia, l'émigration polonaise aux États-Unis, en particulier à Chicago, joue un rôle important dans la définition de la politique américaine, mais aussi dans la perception qu'on peut avoir de l'Amérique en Pologne, où cet affreux pays impérialiste, ben, il y a quand même des cousins qui y sont, il y a quand même des gens qui ont pu y émigrer. Donc il y a une relation privilégiée qui bloque un petit peu cette logique de bloc, hein, cette logique du camp soviétique, en faisant de la Pologne un des maillons faibles dans la stratégie américaine ou occidentale du bloc soviétique.
Willis Conover speaking. This is the Voice of America Jazz Hour. The music of jazz parallels the freedom that we have in America. Something that not every country has.
Cette tournée est largement organisée par, du côté américain, cette radio qui s'appelle Voice of America, qui consacre au jazz une part très importante, Louis Armstrong y est passé, et qui représente dans les institutions américaines quelque chose d'un peu original, parce que chargé par le gouvernement américain d'orchestrer la propagande occidentale face au bloc soviétique, The Voice of America a rassemblé des gens qui n'étaient pas les plus ardents maccartistes. Et en 1953, la direction de The Voice of America a eu des ennuis avec le sénateur McCarthy, qui a accusé les rédacteurs de la radio d'être des communistes infiltrés. Donc, c'est un peu paradoxal de penser que la campagne antisoviétique qui peut accompagner ce que le jazz porte avec Dave Brubeck est orchestrée en Amérique par des gens qui sont eux-mêmes, par moments, à tort, hein, on est du côté de McCarthy dans du délire, suspecté d'être des taupes communistes en Amérique.
Louis Armstrong, the name which means America to more people than anyone else I can think of over a long period of time. What can you say about Louis except Louis, take it?
Well, what you saying, is it? My man.
Voice of America, c'est
Ludovic Tournès.
La radio du département d'État, qui avait été fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour servir de contre-propagande à la propagande radiophonique des pays de l'Axe, et qui est réactivée en 1945 pour faire de la propagande de l'autre côté du rideau de fer. Voice of America couvre énormément de pays parce qu'elle a plusieurs émetteurs assez puissants qui sont répartis dans plusieurs endroits du monde. Et donc qui lui permettent, ces émetteurs, d'être audibles en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, de l'autre côté du rideau de fer aussi. Donc elle a vraiment une couverture internationale très très forte. Et les émissions de Voice of America sont traduites dans plusieurs dizaines de langues, hein, ce qui leur permet évidemment d'être écoutés par le public des différents pays. Donc c'est un moyen de propagande extrêmement important. Et qui, à ce titre d'ailleurs, fait l'objet de tentatives de brouillage systématique de la part de l'URSS. Hein, brouillage qui est souvent contourné par les États-Unis, qui déplacent les émetteurs ou qui parviennent, par divers autres moyens, à contourner le brouillage russe.
Yeah, I remember when Diz was in Greece, back in 57. He did such a good job, we started sending jazz all over the world. The State Department has discovered jazz. It reaches folks like nothing ever has. Like when they feel that jazzy rhythm, they know we're really with them. That's what we call cultural exchange.
Aucune marchandise n'est tout à fait aussi étrange que cette chose appelée échange culturel. C'est ce que clame une des chansons phares de la comédie musicale, The Real Ambassadors, les véritables ambassadeurs, en 1962. Une comédie musicale pour laquelle les Brubeck et Louis Armstrong se sont associés, et une partition qui revient avec beaucoup d'ironie sur leur expérience des tours organisés par le département d'État et leur fonction temporaire d'ambassadeur du soft power américain de guerre froide. On n'oublie pas pour autant l'ennemi, le vrai, comme on peut l'entendre ici.
Remember who you are and what you
represent. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous représentez. Jelly Roll et Basie nous ont aidés à inventer une arme comme aucune autre nation n'en possède. Surtout, n'oubliez pas que ce ne sont pas les Russes qui ont inventé le jazz.
Remember who you are and what you represent. Represent.
Si la politique intérieure et les méthodes sont critiquées, la guerre en cours reste le point de mire de l'implication des artistes et le jazz fait décidément une excellente arme de combat.
L'idée de soft power, ça serait, d'après Joseph Nye, le théoricien qui a utilisé ce terme pour la première fois,
Didier Francfort,
une puissance qui n'est pas seulement politique, qui n'est pas seulement militaire, qui n'est pas seulement économique, mais qui parvient à une forme d'hégémonie culturelle, idéologique. Et on présente assez souvent la guerre froide comme étant non seulement un affrontement le plus souvent indirect de deux grandes puissances, mais comme l'affrontement aussi de deux systèmes politiques, de deux modes de vie, de deux modèles politiques et sociaux et culturels. Or, je crois que ce terme de soft power qui aurait expliqué la victoire du côté occidental face à l'autre côté, ne correspond pas à un affrontement, j'allais dire, à armes égales. L'idée qu'il puisse y avoir un soft power soviétique, c'est un peu problématique, parce que, bien évidemment, sur le thème de la défense de la paix, de l'opposition à l'impérialisme, de l'opposition à la guerre du Vietnam, le bloc soviétique peut exercer une certaine influence sur la société du bloc adverse, autant pour ce qui est du modèle de société, du mode de vie et parfois des pratiques culturelles, il n'y a pas du tout d'équivalent de ce que peut être le soft power américain. Ça pose pas mal de questions sur ce qu'est une hégémonie culturelle.
La guerre froide dans nos têtes. Une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 4, l'allié versatile. C'est l'histoire d'une amitié indécise. Pour faire la guerre, il faut des alliés, surtout quand elles durent plus de 40 ans. Les alliances se nouent et se rompent au gré d'équations aux variables infinies qui convoquent la logique de confrontation typique entre l'ennemi de l'ami de mon ami et l'ennemi de mon ami qui pourrait se faire, si ce n'est ami, au moins allié temporaire.
In Moscow too, a conference, as Molotov, recently appointed deputy to Stalin, goes to Yaroslav Station to welcome a comrade from the Far East. With the Red Victory in China opening the Pacific to Russia, Mao Tse-tung is summoned to the Kremlin to be given his role in the Cold War.
Sur une archive des actualités filmées de Pathé, des officiels soviétiques arrivent en rang serré sur un quai de gare. Les civils en chapka, les militaires tout en uniforme et en galon. Il fait froid, nous sommes en hiver, à la fin de l'année 1949. Pour accompagner les chefs, des rangées de soldats au garde-à-vous. C'est un moment très protocolaire. L'Union soviétique accueille pour la première fois Mao Tse-tung, le dirigeant de l'autre partie du monde communiste, la Chine. On se salue avec chaleur, on se sourit fraternellement, mais cette scène marque le début d'une collaboration agitée au fil du temps et de la guerre froide.
Donc Mao a fait route depuis Pékin en train.
Céline Maranger est politiste, spécialiste de la Russie et de l'Asie communiste.
Et là, le train s'approche, entre en gare. Il descend de son wagon et il est accueilli à ce moment-là par deux hauts représentants soviétiques, par Molotov, le fameux Molotov, mais qui est alors en disgrâce. Sa femme, Palina Jemchujina, a été arrêtée quelques mois auparavant et il vient d'être évincé par Vyshinsky. De même, Bulganin, qui était jusqu'à peu ministre de la Défense, et il n'est plus ministre de la Défense. Donc en fait, la délégation soviétique qui vient accueillir Mao à la gare n'est pas particulièrement prestigieuse. Ce ne sont pas ses alter-ego. Il se rend à Moscou pour faire allégeance d'une certaine manière à Staline, mais aussi pour négocier un accord d'assistance mutuelle avec l'Union soviétique. Il attend beaucoup de ce voyage. On sait, d'après les mémoires de son interprète, qu'il s'était préparé dans son wagon à accueillir les plus hauts représentants soviétiques, qu'il avait disposé des mets et qu'il comptait les inviter à entrer dans le wagon pour les recevoir et échanger. Et en fait, quand il arrive à la gare, Staline est absent. Il est reçu le soir même par Staline, assez brièvement, et puis plus rien jusqu'au 21 décembre. Il ne revoit Staline, donc il arrive le 16 décembre 1949, et il ne revoit Staline que 5 jours plus tard, le 21 décembre, à l'occasion des festivités qu'ils sont organisées en l'honneur du 70e anniversaire de Staline au Bolchoï.
Pourquoi Staline ne rend pas honneur à cet invité, à Mao ?
Je pense que Staline veut marquer sa supériorité. À l'été 1949, Liu Shaoqi, qui est donc un des principaux dirigeants du Parti communiste chinois à l'époque, s'est rendu à Moscou. Et il a demandé à Staline à subordonner son parti au PCUS. Il a également demandé à ce que le PCC, le Parti communiste chinois, intègre le Kominform qui venait d'être créé. Et Staline refuse à la fois toute intégration du PCC dans le Kominform et également toute subordination du PCC au Parti communiste soviétique. En revanche, il l'incite à organiser une union des partis communistes en Asie orientale, en soulignant à quel point la victoire des communistes chinois était importante pour l'avenir de la révolution en Asie.
Même si l'on se bat peu au cours de la guerre froide, les nations ennemies sont sur le pied de guerre et organisent leurs alliances militaires et stratégiques. À l'ouest, sous le patronage des États-Unis, il y a l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tandis qu'à l'est, il y a le Kominform qui rassemble les républiques socialistes autour de la Russie soviétique.
Cette rencontre est primordiale pour l'avenir du communisme en Asie, c'est-à-dire que à cette occasion, il va être décidé d'apporter une aide substantielle, à la fois chinoise et soviétique, aux communistes vietnamiens qui, sous couvert du Viet Minh, font la guerre aux Français pour conserver l'indépendance du Vietnam, qui a été proclamée le 2 septembre 1945 par Ho Chi Minh à Hanoï. Et par ailleurs, elle va avoir une incidence très importante sur la Corée. Les communistes coréens, forts de l'aide soviétique et chinoise, vont décider de lancer des opérations en juin. Ils déclarent la guerre en juin 1950 et ils le font avec l'approbation de Staline.
À Washington, le climat de tension créé par l'attaque des Coréens du Nord contre la Corée du Sud ne s'est pas apaisé. Monsieur Dean Acheson, chef du département d'État, Monsieur Johnson, secrétaire à la Défense, et le président Truman suivent heure par heure le déroulement des opérations. Pendant ce temps, en Corée, les opérations se poursuivaient et fortement appuyées par leur aviation, composée d'appareils de construction soviétique, les Coréens du Nord, rencontrant sur les routes la foule des réfugiés, progressaient après avoir occupé Séoul, la capitale, en direction de Taejon, nouveau siège du gouvernement sudiste. Le pays du matin calme est devenu le siège d'un véritable conflit intéressant l'avenir de tout l'Extrême-Orient.
La manière dont l'Union soviétique se comporte dans son bloc n'est pas du tout la même que celle dans laquelle les Américains se comportent dans ce qu'on peut appeler, pour moi, plutôt un camp qu'un bloc.
Pierre Grosseur est historien et spécialiste de la guerre froide.
C'est-à-dire que vous avez une autonomie évidemment beaucoup plus importante et vous avez quand même beaucoup plus une demande de présence américaine alors que la présence soviétique est souvent imposée. Alors maintenant, la Chine. Alors là, à la limite, on n'est plus dans le bloc, c'est vraiment le bloc de l'Est européen. Dans un premier temps, la Chine a essentiellement un rôle régional, mais qui a un rôle extrêmement important parce qu'elle intervient dans la guerre de Corée, donc à partir d'octobre-novembre 1950. Et ce qui est très 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 important, c'est qu'on dit souvent guerre froide entre Américains et Soviétiques, ce qui n'a pas empêché en gros qu'il y ait eu 1500 morts à peu près soviétiques dans la guerre de Corée. Mais vous avez eu 2 millions de Chinois qui sont allés se battre en Corée contre des Américains. Il y a eu une guerre chaude. Et évidemment, chacun s'en souvient. le fils préféré de Mao est mort en Corée. Il y a eu une vraie guerre directe, avec une grande fierté de la part des Chinois, c'est d'avoir tenu tête. Et aujourd'hui, c'est utilisé dans la propagande chinoise régulièrement. Et donc, en gros, il y avait une espèce de division du travail. La révolution en Asie, l'aide au Viet Minh en Indochine, c'est la Chine. L'Union soviétique regarde ça de loin, il faut toujours que les Chinois expliquent ce qu'ils font, mais leur affaire, c'est plutôt l'Europe. Ce qui est évidemment important, c'est la mort de Staline, puisque à partir de ce moment-là, vous avez plus la figure centrale et la grande centralité du Parti communiste de l'Union soviétique. Et donc, Mao veut au moins être égal à Khrouchtchev, voire être le grand centre du communisme international. Et donc, petit à petit, dans des conflits à la fois idéologiques, et petit à petit, parce que les Chinois considèrent que les Soviétiques abandonnent plus ou moins la révolution avec la détente à l'égard des Américains, ou ce qu'on appelait la coexistence pacifique à l'époque, donc ils sont mous.
Staline meurt en 1953. C'est un traumatisme pour ses farouches partisans, un soulagement pour ceux qui attendent un assouplissement du régime annoncé au cours du 20e congrès du Parti communiste soviétique en 1956. Les larmes du deuil sèchent bien vite. Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant soviétique, y dénonce les excès de l'ère stalinienne et annonce une nouvelle ère, justement, pour le communisme soviétique. Entre-temps, la Russie s'est réconciliée avec la Yougoslavie et s'est débarrassée de Lavrenti Beria, le terrible promoteur de la police politique, de l'espionnage soviétique et du goulag, dont les détenus sont en grande partie libérés. Du côté de la guerre froide, c'est une période de détente qui s'ouvre, au moins pour quelque temps.
Khrouchtchev fait un voyage à Pékin. Il arrive le 31 juillet 1958.
Céline Maranger.
Une semaine avant la visite de Khrouchtchev, Mao s'est répandu en invectives contre Khrouchtchev, contre sa personne même, auprès de l'ambassadeur Youdin, en lui demandant en plus à la fin de l'entretien de ne rien polir, je cite, c'est-à-dire de rapporter en fait mot pour mot les critiques assez acerbes qu'il avait proférées à l'encontre de Khrouchtchev. Khrouchtchev reçoit un accueil des plus froids et alors qu'il s'attendait à négocier avec Mao autour d'une table, Mao, de façon tout à fait impromptue, sans l'avoir prévenu auparavant, lui propose de mener des pourparlers dans une piscine. Mao est très bon nageur, il aime beaucoup la natation. Khrouchtchev sait à peine nager et il n'a d'autre choix que de s'exécuter. Et donc il se déshabille et il entre dans la piscine en slip de bain avec une bouée autour du ventre. Et c'est ainsi qu'il mène les premiers pourparlers de cette visite avec Mao. Évidemment, c'est assez humiliant pour lui, on peut l'imaginer. D'autant que Mao profite de cette occasion pour revenir à la charge à propos du découronnement de Staline. Et donc il reproche à Khrouchtchev à ce moment-là, d'avoir pris seul une décision qui, en fait, concerne, de son point de vue, tout le mouvement communiste mondial et qui porte en plus atteinte à l'autorité et au prestige du communisme dans le monde. Alors, cette visite, on peut dire qu'elle est ratée, une visite qui va laisser des traces, d'autant que lors d'une deuxième réunion, en fait, entre Khrouchtchev et Mao, Mao se montre extrêmement grossier à l'encontre de Khrouchtchev. Il l'insulte tout simplement. Et Khrouchtchev finalement abrège sa visite. Il rentre à Moscou. Trois semaines plus tard, les Chinois bombardent des îles du détroit de Taïwan, ce qui provoque évidemment un regain de tension avec les États-Unis. Or, les Chinois n'ont pas tenu informer les Soviétiques de ces manœuvres à venir. Et il faut dire qu'il y avait plusieurs accords qui liaient l'Union soviétique et la Chine. C'est-à-dire que toute attaque contre la Chine était considérée à l'époque par l'Union soviétique comme une attaque contre l'Union soviétique. Donc, ils étaient quand même concernés au premier chef. À la suite de ces manœuvres chinoises dans le détroit de Taïwan, les Soviétiques renoncent à aider la Chine à se doter de technologies nucléaires et ils annulent l'accord d'assistance militaire et stratégique qui avait été signé l'année précédente en 1957. Ça va prendre quelques mois. Ils vont annuler cet accord en juin 59, juste avant le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis. Ce voyage très important qui marque en fait l'aboutissement d'une certaine façon de la politique de coexistence pacifique qui a été promue après la mort de Staline.
Et à l'occasion de ce voyage, Khrouchtchev propose un plan de paix de désarmement global devant le Conseil de sécurité.
Allô, Moscou !
Allô, New York ?
Allô, Mr. Kate !
Nous sommes venus à vous, le cœur ouvert et animé de bonnes intentions, a dit M. Khrouchtchev en arrivant sur l'aérodrome de Washington, où le président Eisenhower était venu accueillir le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. La rencontre historique a commencé au milieu des meilleurs sentiments du monde. Sur le trajet, la foule était nombreuse. Plus de curiosité que d'enthousiasme, mais le dégel ne faisait que commencer.
Les Chinois réagissent très mal. Céline Maranger. À nouveau, à la fin du mois de septembre 1959, il y a de nouveau pourparlers entre Mao et Khrouchtchev. Et pour la première fois, Mao dit ouvertement que la position du Parti communiste d'Union soviétique constitue un révisionnisme moderne. Et ça, pour des communistes, c'est une insulte assez violente. C'est faire référence à une insulte qui avait été autrefois proférée par Lénine et donc s'inscrire dans la continuité de Lénine et suggérer que la position tenue par Khrouchtchev au sein du Parti communiste soviétique aurait été en son temps dénoncée par Lénine comme un révisionnisme et comme donc une position condamnable. En 1960, Khrouchtchev prend la parole devant le comité central du Parti communiste soviétique et à cette occasion, il qualifie la contribution de Mao à la pensée marxiste de galimatia et il estime aussi que Mao est devenu la copie conforme de Staline. Et il en veut pour preuve qu'en fait, chaque instruction de Mao a force de loi en Chine et que chaque parole de Mao est élevée au rang de vérité absolue. Ce même mois de juillet 1960, tous les conseillers soviétiques en Chine sont rappelés en Union soviétique. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est-à-dire que la coopération n'a plus lieu d'être.
Donc, la rupture sino-soviétique est un processus assez long.
Pierre Grosseur.
Mais qui a des conséquences évidemment tout à fait essentielles. C'est que finalement, la guerre froide devient beaucoup plus complexe. Vous avez une vraie opposition entre Chinois et Américains. Pourquoi ? Parce que c'est les Chinois qui sont les plus radicaux finalement dans la contestation de l'impérialisme et qui d'ailleurs ont provoqué deux crises à Taïwan en 54 et en 58 qui auraient pu devenir nucléaires. Donc ça c'est, et puis ils ont l'arme nucléaire en 64 qui est quand même assez inquiétante. La guerre froide c'est aussi cela, d'accord ? Et elle se passe aussi en Afrique, elle se passe en Algérie puisque les Chinois soutiennent le FLN, hein, donc nous ça nous pose quand même quelques problèmes. Ils ont soutenu Mandela, il y a eu des gens de l'ANC qui ont été formés en Chine pour le combat. Donc voilà, on a vraiment cette impression. Rivalité avec l'Union soviétique dans le monde entier et à l'intérieur de tous les partis communistes du monde entier. Et évidemment les Chinois essayent d'aller voir les pays d'Europe de l'Est communistes leur disant « mais la bonne ligne, c'est la nôtre ». Donc voilà, vous avez une vraie rivalité. Les Vietnamiens en jouent, ils essayent d'avoir de l'aide des deux. Les Coréens savent pas trop où se placer, mais essayent de garder leur autonomie. Donc vous avez une grande rivalité mondiale. Et cette rivalité mondiale va arriver, en fait, à des vraies guerres entre pays communistes, qui étaient inimaginables, puisque normalement, des pays qui sont communistes ne peuvent pas se faire la guerre. Parce qu'ils sont frères et parce que la guerre est toujours produite par les pays capitalistes, soit les rivalités inter-impérialistes, soit le colonialisme, soit l'hostilité au camp socialiste. Et donc vous avez la guerre de 69 entre Chinois et Soviétiques. Vous avez l'invasion du Cambodge communiste par le Vietnam en 1978 et la Chine qui punit le Vietnam communiste en 1979. Petit à petit, vous avez le bloc de l'Est qui se délite, qui se crée en camp avec les pro-chinois et les pro-soviétiques, et ça se termine avec des affrontements. Alors ça, c'est les affrontements entre États, mais vous avez aussi des affrontements, j'allais dire, physiques, pas seulement idéologiques, entre les pro-chinois et les pro-soviétiques. Et le discours chinois est de dire, voilà, l'Union soviétique, c'est le Nord, c'est des Blancs, c'est la même chose que les Américains, ils sont impérialistes pareil. Donc voilà, vous avez vraiment l'impression d'une critique d'un système dominé par les Américains et les Soviétiques. Et après, évidemment, ce qui rechange encore une fois tout cela, c'est 1972, donc le rapprochement entre les États-Unis et la Chine, puisque les États-Unis, d'une certaine façon, vont utiliser la Chine pour contenir l'Union soviétique, et il va y avoir une quasi-alliance des États-Unis et de la Chine, aussi dans le tiers-monde d'ailleurs, au soutien des mêmes groupes en Angola ou ailleurs, face aux soviétiques. Et en Afghanistan, les Américains, on connaît très bien l'aide américaine, les Chinois aussi ont aidé les Moudjahidines afghans, parce que, évidemment, la progression soviétique inquiétait les Chinois.
Pendant ce temps-là, les États-Unis tentent de faire bonne figure dans les pays récemment décolonisés pour séduire ce nouveau monde, et notamment au Ghana, en 1957, le jour de la grande cérémonie d'indépendance.
La bataille est finie et le Ghana, votre pays bien-aimé, est libre pour toujours. Nous devons changer notre attitude et nos esprits. Nous devons réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une colonie, mais un peuple libre et indépendant. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, prions pour le nouveau Ghana, né il y a quelques minutes.
This day will never be forgotten. The 6th of March 1957.
On vient d'entendre la cérémonie d'indépendance du Ghana en 1957. C'est une fête assez formidable qui attire des dignitaires du monde entier.
Pauline Perrette est historienne, spécialiste des représentations américaines et soviétiques au cours de la guerre froide.
Et parmi eux, Nixon, qui est en train de faire une grande tournée africaine. C'est sa première tournée africaine. Il est vice-président des États-Unis à cette époque-là. Donc, il travaille avec Eisenhower. C'est une administration qui, jusque-là, s'est assez peu intéressée à l'Afrique. Et pourtant, en 1955, l'Afrique apparaît vraiment comme un nouveau territoire de rivalité avec l'Union soviétique. Hein. On est peu de temps après la crise de Suez. Les soviétiques ont commencé à mettre leurs pieds sur le continent. Ils ont soutenu militairement par l'intermédiaire de la République tchèque l'Égypte. Ils donnent des armes au Libéria. Ils commencent à s'installer économiquement sur le continent. Et les États-Unis sont en retard. Pourtant, il y a évidemment des minerais intéressants, des ressources économiques. Et puis aussi une lutte pour l'influence idéologique. Et à ces nouvelles nations africaines, hein, Afrique noire, les États-Unis veulent se poser en modèle. Et les États-Unis se ressourcent dans leur histoire et montrent qu'ils ont un modèle à proposer d'indépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales européennes, dans le cas des États-Unis, la Grande-Bretagne. Et c'est la même chose pour le Ghana, ancienne Gold Coast, donc colonie britannique. Et Nixon a cette particularité dans l'administration aussi et dans le parti républicain d'être quelqu'un qui est considéré comme assez libéral au sens américain sur les questions de race, notamment parce qu'il a soutenu l'arrêt de la Cour suprême de 1954 qui rend inconstitutionnelle la ségrégation à l'école, et donc il comprend en allant en Afrique à la fois l'enjeu géopolitique, économique qu'est l'Afrique, mais également toute la symbolique de la relation qui existe entre les pays nouvellement émancipés en Afrique et la lutte pour la reconnaissance des droits aux États-Unis. Donc il y a ce lien très fort qu'il comprend à ce moment-là, et il comprend aussi tout le mal que peut provoquer ou générer le double standard racial auquel se livrent les États-Unis pour leur conquête des cœurs à l'étranger. Donc il faut absolument, pour des raisons de politique étrangère, hein, c'est du pragmatisme pur, hein, procéder à des réformes en matière de droits.
Face à ces nations libérées du colonialisme européen, les soviétiques et les états-uniens peinent parfois à trouver un chemin satisfaisant entre la théorie et la pratique. Dans ces enjeux de guerre froide, dans ce troisième monde, dans ces espaces hors des zones d'influence immédiate, un micro-État rafle toutes les médailles de la notoriété dans cette course d'attraction auprès des pays du tiers-monde. C'est Cuba. En 1962, l'île des Caraïbes devient le synonyme d'une des plus grandes frousses du siècle.
October 1962. America's defense muscle heads for Florida after President Kennedy's announcement of the weapons blockade of Cuba.
Monsieur Anderson est éditeur. Avez-vous eu peur de la guerre la semaine dernière? Nous en étions très près. Le risque était grand? Le risque était très grand.
Est-ce que la semaine dernière vous avez cru qu'on allait à la guerre?
Il y avait des grandes possibilités pour qu'on aille à la guerre, je crois. Je crois que on était presque à ce point-là.
crise de Cuba est l'une des crises qui a fait le plus couler d'encre en raison de sa dangerosité, hein, puisqu'on dit souvent que c'est à ce moment-là que le monde a été au bord du gouffre.
Nicolas Badalassi est historien, spécialiste de la guerre froide.
Il se trouve que en 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Fidel Castro n'est pas un communiste à la base. Tout ce qu'il cherche, c'est à instaurer une réforme agraire à Cuba, qui était jusque-là une île dominée par les intérêts américains. Réforme agraire qui est évidemment combattue par les États-Unis, hein, qui voient tout de suite une forme de communisme. Et les Américains, hein, mettent en place un embargo contre Cuba pour l'empêcher d'exporter aux États-Unis son sucre, le rhum, les cigares, etc. Et c'est finalement l'embargo américain qui va pousser Fidel Castro dans les bras de Khrouchtchev, puisque Khrouchtchev lui propose d'acheter son sucre, tout simplement. Ce que les Américains vous achètent plus, ben nous, on va l'acheter. Et c'est comme ça que se met en place la solidarité entre Cuba et l'URSS. Et c'est une aubaine pour les Soviétiques, parce que non seulement il va falloir protéger, assurer la protection de ce régime idéologiquement proche, hein, des frères socialistes, des frères communistes. Mais en plus, Cuba, c'est à 200 km des côtes de la Floride, donc on va pouvoir compenser l'encerclement du territoire soviétique par les forces américaines, par l'installation de bases de lancement de missiles tout près des côtes américaines. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que les Soviétiques sont persuadés, quand je dis Staline, Khrouchtchev, Brechnev par la suite, qu'ils sont encerclés, que le territoire soviétique est menacé de toutes parts par les Américains. En Europe, il y a l'OTAN, hein, qui fait pression sur le bloc de l'Est. De l'autre côté, en Asie-Pacifique, du côté de la Sibérie orientale, c'est le Japon qui est un véritable porte-avions américain, la Corée du Sud. Les Américains sont aussi déployés dans l'océan Indien, au pôle Nord. Donc, vu de Moscou, on se sent encerclé par les Occidentaux. Et ça, ils ne le supportent pas. Donc, Cuba, c'est un moyen de compenser cet encerclement. Mais puisque vous êtes trop proche de notre territoire, mais nous aussi, on va venir vous menacer chez vous. Et c'est donc la fameuse l'installation des bases de lancement de missiles à Cuba tout au long de l'année 1962, que les avions espions américains U-2 repèrent en septembre, et qui permettent donc au président Kennedy de déclencher la crise publiquement, hein, en pointant du doigt devant son opinion publique la volonté soviétique de faire pression sur les États-Unis.
Monsieur Richard Condon est architecte, il habite le New Jersey. Est-ce que vous avez eu peur la semaine dernière?
Beaucoup, oui. Je conduisais une voiture de New York à Stowe et j'écoutais le radio et je croyais vraiment qu'on était presque à la fin de notre vie.
Vous avez eu peur de la guerre atomique?
Oui.
Et vous croyez que le président Kennedy a agi d'une façon dangereuse ou raisonnable ou...
D'une façon très dangereuse, mais les événements prouvent que c'était assez raisonnable.
Alors, cette crise, elle se termine par un deal entre Washington et Moscou, à savoir que les Soviétiques acceptent de retirer leur rampe de lancement de missiles à Cuba en échange du retrait par les Américains de leurs missiles situés, les fameux missiles Jupiter, situés en Turquie et en Italie. Alors, l'une des conséquences de la crise de Cuba, c'est aussi la frousse, hein, qui a été provoquée chez les uns et les autres. Donc ça va être le début de la maîtrise des armements, c'est-à-dire l'arms control. On a eu tellement eu peur que ça tourne à la catastrophe en raison, là aussi, de la mise en alerte des forces nucléaires pendant le mois d'octobre 62, que tant aux États-Unis qu'en URSS, on s'est dit qu'il était quand même temps de mettre sur pied un vrai système de dialogue et de contrôle de ces armes pour éviter un dérapage. Une autre conséquence de la crise de Cuba est l'adoption par les Américains de ce qu'on appelle la doctrine des représailles graduées, qui change complètement la façon dont on veut employer la bombe atomique. À savoir que depuis le début des années 50, les États-Unis considéraient que si le territoire américain ou celui de l'un de leurs alliés était menacé par l'URSS, la réponse américaine serait, quoi qu'il en soit, nucléaire. C'est ce qu'on appelait les représailles massives. À partir de 1962, lorsque les États-Unis, donc on est sous l'administration Kennedy, réalisent la puissance soviétique en termes nucléaires et réalise aussi à quel point on est capable de passer près de la catastrophe avec la crise de Berlin puis la crise de Cuba, les Américains, sous la houlette de Robert McNamara, estiment que c'est beaucoup trop dangereux et qu'il faut donc changer de doctrine d'usage de la bombe atomique. Donc on passe à ces représailles graduées, c'est-à-dire que l'usage de la bombe nucléaire est proportionnel à la menace, et notamment à la menace soviétique. En gros, on garde l'arme atomique comme arme de dernier recours.
How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. But this we do know. Civil defense is everybody's business. It's a big job getting civil defense organized to operate efficiently. But then atomic attack is disaster on a big scale. We can and must get the job done if we are to survive.
Après, ce qui fait le paradoxe de la bombe atomique, c'est que dans les années 50, on présente cette bombe comme destructrice et protectrice également. Protectrice vis-à-vis de l'adversaire. Et dans le même temps, on essaye de prouver à la population que c'est l'énergie de l'avenir. Et donc là, on entre dans un double discours, en fait, qui est compris par une majorité de la population, peut-être dans les années 50, mais qui, à partir du moment où on va frôler la catastrophe dans les années 61-62, la deuxième crise de Berlin, la crise des missiles de Cuba, eh bien, de plus en plus de gens, et pas seulement des scientifiques, vont considérer que c'est une folie d'aller aussi loin dans le développement des armes de destruction massive et dans le développement des armes nucléaires. Donc les années 60 sont un premier basculement vers la prise de conscience générale qu'on va trop loin. You hit me, baby, like an atomic bomb. I surrender, honey, 'cause you have won. Your lips touch mine and my heart went numb. I need your kind of love, won't you give me some? Want to hug and kiss you and give you a squeeze. You make me radioactive all in my knees. You must be the angel. C'était La guerre froide dans nos têtes, épisodes 3 et 4, avec Pauline Peretz, Emmanuel Droit, Didier Francfort, Ludovic Tournès, Ami Dahan, Nicolas Badalassi, Céline Maranger et Pierre Grosseur. Recherche musicale, Antoine Vuilloz. Prise de son, Andreas Jaffré. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Perrine Carvran. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier. Une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hue.